Joie à toutes et à tous. C'est mon désir profond que chacun ici peut dire avec moi, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Et que chacun peut dire avec confiance, couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Cette semaine, quand j'ai pensé à vous, j'ai prié pour vous, c'était vous qui m'a poussé de prendre le thème, l'amour de Dieu. Parce que dans ce monde qui manque beaucoup de l'amour, c'est pas un monde qu'on peut dire que c'est caractérisé par l'amour. On est tenté de penser, de définir Dieu par notre monde. On dit, en fait, j'ai pas beaucoup de confiance dans l'amour de Dieu parce que je sais ce qui est mon amour. Et on a peur que Dieu n'aime pas mieux que nous. Mais le message de la Bible, c'est que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre amour. Son amour est parfait, éternel, et ça change jamais. Que Dieu soit béni pour son amour pour nous. Il y a plusieurs semaines maintenant, on a commencé notre étude, considération de la lettre de Tite, à Tite, et on a résumé la lettre en quatre lignes. D'accord? Le Seigneur glorifié par une église transformée à travers des anciens désignés pour une communauté évangélisée. D'accord? On a considéré d'abord les anciens et comment la grâce change les hommes d'être les anciens qui peuvent diriger une église. Et il y a deux semaines, on a commencé le chapitre 2, et on a commencé par les hommes âgés, parce que ça c'est ce que Paul a fait. Et la première fois, on a vu ce que doit être le comportement public des hommes âgés. Ils doivent être respectables, raisonnables et sobres. Et ensuite, on a noté qu'il y a un aspect qui est plus personnel, intérieur à l'homme, ce qui parle de son esprit. Il doit être saint dans trois domaines de la vie. Saint dans la foi, saint dans l'amour et saint dans la persévérance. Et la semaine dernière, on a considéré saint dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, on va commencer notre considération saint dans l'amour. Qu'est-ce qui signifie d'être saint dans l'amour? Parmi les enfants ici, combien de vous à l'école, combien de vous faites les dictées? Est-ce que vous faites les dictées à l'école? Toujours? D'accord. Donc, quand vous faites les dictées, comment vous savez si vous avez réussi à bien écrire ce qu'a dit le maître ou la maîtresse? Comment vous le savez? Est-ce que vous faites la comparaison avec ce qu'a dit la maîtresse, n'est-ce pas? Ou le maître, vous savez si vous avez, on peut dire, un dicté saint, si vous avez fait exactement ce qu'a dit le maître ou la maîtresse. Si nous voulons savoir si nous avons l'amour qui est saint, il faut comparer notre amour avec l'amour de Dieu qui est révélé dans la Bible. Et on a plusieurs façons de le faire, d'accord? Ce matin, on va faire une campagne de dépistage, partie 1, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va faire ce matin. Mais on peut faire la comparaison entre notre amour et l'amour de Dieu dans la Bible en faisant une étude de mots qu'on a fait, comme on a fait avec la foi. Mais cette fois-là, j'ai décidé de mettre le temps en observant, en étudiant ce que dit un passage de la Bible sur l'amour. Et on a deux choix dans le Nouveau Testament. Il y a deux passages qui décrivent ce qui est l'amour de Dieu. Romains chapitre 12 parle de l'amour qui est sincère. Et 1 Corinthiens 13 nous dit ce que fait l'amour. Et ce matin, nous allons considérer pas titre 2, ça c'est le point de départ, mais nous allons considérer 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous pouvez trouver 1 Corinthiens 13 avec moi, c'est un passage très connu, très facile à lire, mais très difficile à vivre, franchement. 1 Corinthiens 13, et nous allons lire le chapitre entier, mais nous allons considérer seulement les versets 4 à 7. Paul écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érène qui résonne, une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophètes, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci Seigneur pour sa parole. Nous voulons maintenant faire un petit dépistage, c'est-à-dire chacun doit regarder le miroir de la parole pour voir quel est l'état de mon amour à moi. Est-ce que je suis sain dans l'amour? Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Les enfants, vous pouvez le faire. Et les adultes, nous devons le faire. Parce que Dieu veut qu'on soit comme lui, plein d'amour. On va commencer par quatre observations sur l'amour qui vient des trois premiers versets. Et on a d'abord cette observation. L'amour est primordial. L'amour est primordial. Jonathan Edwards, un pasteur américain du 18e siècle, a résumé le message des trois premiers versets comme ceci. Toute vertu qui est salvatrice, qui amène le salut, et qui distingue les vrais chrétiens des autres, est résumée dans l'amour chrétien. Il continue en expliquant, « Permettons à un homme d'avoir ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. » Tout cela ne signifie rien sans amour. Cela implique sûrement que l'amour est la grande chose et que tout ce qui ne contient pas ou qui n'implique pas l'amour d'une façon ou d'autre n'est rien. Et que cet amour est la vie et l'âme de toute vraie religion, sans lesquelles toutes choses qui portent le nom vertu sont vides et vaines. Et selon un pasteur qui s'appelle Graham Scroggie, pasteur du 20e siècle, l'amour représente le fait primordial et la doctrine principale du christianisme. Après avoir considéré ces versets, il conclut, « Si quelqu'un n'a pas de l'amour, il n'a rien. Et s'il a l'amour, quoi qu'il puisse lui manquer, il a ce qui vaut le mieux. » Donc, ce passage nous dit, nous pouvons être les personnes les plus douées, avec une grande foi, mais si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est primordial. Ensuite, l'amour est actif. L'amour est actif. Dans ce chapitre, Paul utilise une figure de style qu'on appelle la personnification. D'accord? C'est-à-dire, il parle de l'amour comme s'il était un être vivant. Paul décrit l'amour au verset 4 à 7 en disant ce que l'amour fait, et non pas ce que l'amour est. Bien que nos versions utilisent plusieurs adjectifs pour décrire l'amour, comme l'amour est passion, etc., Paul n'utilise que les verbes pour décrire l'amour au verset 4 à 7. Cela nous dit que l'amour est fondamentalement actif. On ne peut pas parler de l'amour sans parler des actions. À ce propos, je trouve fort intéressant que Jésus dise ce qui suit en Apocalypse 2 à une église qui a abandonné son premier amour. Il dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et réponds-toi et fais quoi? Les premières œuvres. Les œuvres sont simultanées avec leur premier amour. L'amour agit toujours. L'amour existe. Et on le sait bien, n'est-ce pas? Parce que si on est dans la famille, et un membre de la famille dit, « Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Mais ce membre ne fait rien. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah bon? Tu m'aimes? Mais tu fais quoi? Rien. Parce que l'amour est actif. L'amour est actif. Il est primordial, il est actif, il est relationnel. Ça, c'est la troisième observation. Ce chapitre suppose que l'amour agit en relation avec les autres personnes. Ce fait ne nous permet pas de penser à l'amour comme une chose ésotérique ou théorique. D'accord? On peut parler de l'amour qui est là, mais qui n'a pas des manifestations concrètes avec les autres personnes. Ce fait nous enseigne aussi qu'on ne peut pas aimer si on ne s'engage pas dans la vie d'autres personnes. On veut être des chrétiens comme Jésus-Christ en disant « Oui, nous aimons. » Mais en fait, nous n'aimons pas trop d'être avec les autres personnes. Bon, ça ne marche pas. Pour aimer, il faut être avec les autres. Il faut agir dans la vie des autres personnes. On ne peut pas aimer en isolation. Et la quatrième chose, c'est que l'amour est révélateur. Révélateur. Pas révélatoire. Révélateur. Il faut garder à l'esprit le contexte du chapitre 13, d'accord? La lettre a été écrite à une église factionnée qui a été caractérisée par plusieurs péchés. Le factionnisme, l'immoralité, des procès entre chrétiens, la confusion sur le mariage, l'égoïsme par rapport à la liberté spirituelle, l'abus de la table du Seigneur et la perversion des dons spirituels. D'accord? C'était pas une église avec beaucoup de choses attirantes. Le contexte immédiat du chapitre 13 est la controverse en ce qui concerne les dons spirituels. Contrairement à toute logique, les dons spirituels sont devenus une source d'orgueil et de dispute dans l'Église. Pour lutter contre cette dispute, en décrivant comment l'amour divin agit dans le monde. Et cette description fonctionnait comme un reproche aux Corinthiens parce qu'elle a mis la lumière sur leurs actions, leurs mots et leurs pensées qui n'étaient pas caractérisées par l'amour. Le vrai amour dans ce contexte a révélé leur manque d'amour. Et ce chapitre fonctionne pareillement aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, ce chapitre va révéler les lacunes dans notre amour à nous. Et ça nous amène à un questionnaire de dépistage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque description et on va se poser des questions. Est-ce que ça c'est vrai de moi? Ça c'est notre désir. On veut que la lumière de la parole illumine la vie, qui démontre comment est l'état de notre amour. Première question. Vous devez choisir entre ces choix. Je perds ma patience quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. D'accord? Ça va révéler l'état de notre amour. Est-ce qu'on a un amour qui est sain? Cela dépend. Au verset 4, Paul commence sa description de l'amour par ces mots. L'amour est passion. Ou on peut dire l'amour passion. Patiente. Le mot grec traduit passion est composé de deux mots, long et colère ou envie. D'accord? Et ce mot communique la capacité d'attendre face au mauvais traitement. Si le mot parle de la colère, l'amour attend longuement avant de se fâcher. Si le mot grec parle de l'envie, l'amour patiente en sachant que le timing est important pour obtenir le bien de quelqu'un. L'amour n'agit pas de façon prématurée. Il attend patiemment avant de répondre. Comme le dit le pasteur Scully, le mot dénote une longue attente au cours de laquelle quelqu'un refuse de laisser la place à la colère. Le mot implique la victoire sur un ressentiment juste. Cela veut dire quoi? C'est normal que dans la vie, les personnes nous blessent très souvent. D'accord? Et on a des ressentiments qui sont juste dans le sens que oui, quelqu'un a fait mal. Mais la question n'est pas est-ce que quelqu'un m'a fait mal. La question c'est est-ce que je suis patient sous le mal? Est-ce que j'attends? Est-ce que je peux attendre parfois des jours, parfois des mois, avant de répondre dans la colère? Ou est-ce que tout de suite, je suis quelqu'un, si vous poussez le bouton, je vais répondre avec la colère? L'amour patiente. Et si nous voulons avoir un amour qui est sain, il faut diagnostiquer ce qui se passe dans nos vies. Est-ce que je suis comme ça? Et sinon, j'ai pas un amour qui est vraiment sain. D'accord? Je perds ma patience quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Nos vies sont remplies de choses qui nous mettent au défi. On perd la patience dans les bouchons. Est-ce que ça c'est vrai? quand on fait le cœur, quand les enfants ne nous écoutent pas, quand nos amis ne nous comprennent pas, quand le réseau ne fonctionne plus, quand le monde ne reconnaît pas la valeur de mes idées, quand quelqu'un fait une bêtise, quand. C'est difficile ce monde. Mais la question c'est comment dois-je répondre à ces choses? Est-ce que je perds la patience toujours? Suivant parfois, rarement, jamais. Ça révèle l'état de notre amour. Deuxième chose, j'agis d'une manière méchante envers ceux qui m'irritent. Comment je répondrai à ceux qui sont devant moi quand ils m'irritent? Prochaine description de l'amour dans ce passage est « L'amour est plein de bonté ». Le mot grec communique plusieurs choses. Ça peut être un joug qui est facile. Jésus dit, Matthieu 11, 30, « Prenez mon joug, mais mon joug est facile. » Bon, ça c'est le mot ici. Des mours qui sont honorables, 1 Corinthiens 15, 33. La compassion et le pardon entre croyants, Éphésiens 4, 32. Ou ce mot parle de la gentillesse de Dieu qui doit nous amener à la repentance. Romains 2, 4. Pasteur Sfogui, il a écrit ces mots, c'est la victoire sur la fainéantise égoïste et la poursuite confortable de la satisfaction personnelle. Le contraire de cette action, c'est d'être méchant quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Au lieu de faire le bien, on répond avec des mots caustiques à quelqu'un qui nous blesse. Ça, c'est difficile. Quelqu'un dit une parole qui pique. D'accord? Quelle est notre tentation? De répondre pareillement, n'est-ce pas? Au lieu de couvrir un tort, on blâme l'autre sévèrement. Au lieu de servir quelqu'un qui nous offense, on le tient à l'écart. Bon, c'est fini, hein? Vous restez là-bas maintenant. Si un copain crie sur nous, dans le cours, le récré, qu'est-ce qu'on fait? On répond de la même manière. On crie sur lui. Si quelqu'un nous fâche, nous répondons avec violence. Notre manque de bonté se manifeste de mille façons. Scroggie l'a dit, supporter le mal pourrait être un triomphe de l'obstination, n'est-ce pas? Je peux imaginer à la maison, les choses ne vont pas, quelqu'un est méchant, je peux le supporter. Je dis rien, mais en fait, c'est que l'obstination. Je ne veux pas répondre, je ne vais pas répondre. Mais, l'endurer et avoir la bonté est un triomphe de la grâce. C'est-à-dire, pas seulement je réponds pas, mais je réponds avec la bonté. Ça exige la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. L'amour nous demande d'aller plus loin que seulement supporter quelqu'un. Nous devons pratiquer la bonté envers ceux qui nous blessent. Comme Jésus a dit, nous devons aimer nos ennemis. Et j'ai trouvé un passage très intéressant dans l'apologétique de Tertullien, d'accord? C'était écrit en 197 ans après Jésus-Christ. Il était l'un des premiers chrétiens. Et il a dit, ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il voulait faire avec cette œuvre, c'était de plaidoyer pour le christianisme chez les personnes qui l'ont persécuté. Et en parlant de la nature bienfaisante du christianisme, il observe que souvent les non-chrétiens de cette époque-là, appelés les disciples de Jésus-Christ, Christianus, d'accord? C'était le deuxième mot ici, Christianus. Au lieu de les appeler Christianus, pas beaucoup de différence dans l'orthographe, mais le mot Christianus, le premier, parle du fait qu'on est des disciples de Jésus-Christ, on suit Jésus-Christ. Mais Christianus parle plutôt de quoi? La bonté et la douceur. Et dans son argumentation, Tertullien suggère que les non-croyants se trompaient en ce qui concerne le nom des chrétiens, parce que les chrétiens manifestaient la douceur et la bonté. Sommes-nous comme eux? Aujourd'hui, les personnes pouvaient-ils parler de nous de cette façon? La question pour nous, c'est comment je réagis, moi, à ce qui me fait mal? Suis-je plein de bonté? Ou encore suis-je rempli de méchanceté? Et la réponse révélera si notre amour est sain ou non. On doit juger nous-mêmes. La troisième question. Je suis jaloux de ce que les autres ont. Est-ce que ça arrive toujours, souvent, parfois, rarement, ou jamais dans nos vies? Paul commence la description de ce que l'amour fait au verset 4 par deux choses positives. L'amour patiente et l'amour pratique la bonté. Ensuite, Paul nous présente l'amour par des descriptions négatives. Ce que l'amour ne fait pas. La première action négative, c'est l'amour n'en vit pas. L'amour n'en vit pas. Et le mot grec utilisé par Paul n'est pas forcément négatif. Il communique principalement un désir vif pour quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous exhorte d'aspirer aux dons les meilleurs, 1 Corinthiens 12. Et le mot aspirer traduit le verbe grec qui est traduit ici, envier. Le mot peut parler du zèle d'un chrétien pour l'intérêt du Seigneur. Et donc, en Apocalypse chapitre 3, il dit, « Et donc, du zèle et repens-toi. » Le mot zèle traduit le verbe grec qui est traduit envier en 1 Corinthiens 13. Nous voyons dans ce mot un fort désir d'avoir. On veut avoir les dons les meilleurs. On veut avoir une relation rétablie avec le Seigneur. Ça, c'est bon. Mais nos cœurs pécheurs savent contre ce désir. Au lieu d'avoir un fort désir pour le bien d'un autre, on a un sentiment intense, négatif et égoïste en raison du succès ou de la réussite de quelqu'un. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. En Actes 7-9, par exemple, nous lisons que les frères de Joseph, étant jaloux, l'ont vendu en esclavage. Bon, ça c'est de la jalousie, hein? Jalousie. En Actes 17-5, les Juifs étaient jaloux du fait que le monde suivait l'enseignement de Paul. Ils ont donc provoqué des attroupements et ils ont répandu l'agitation dans la ville contre les chrétiens. Bon, je pense que nous savons tous ce qu'est l'envie négative, n'est-ce pas? C'est le sentiment fort qui remplit nos cœurs quand nous voyons que quelqu'un reçoit les applaudissements, une récompense que nous voudrions bien avoir. Nous devons faire attention. Franchement, c'est trop facile de nier la présence de la jalousie dans nos cœurs. Non, je ne suis pas jaloux. Oui, je veux le bien, mais non, je ne suis pas jaloux. Donc, voici quelques indices qui montrent si la présence d'une envie négative. D'abord, je me méfie immédiatement de quelqu'un en raison de son succès. D'accord. Si je me dis que leur succès aura dû être le résultat d'une tricherie, il est fort probable que je suis jaloux. Hein? Je suis allé avec ma fille, c'était jeudi je pense, il y avait un journée de sport, d'accord? Et c'était vraiment intéressant parce que chaque fois qu'une équipe a gagné l'autre équipe, qu'est-ce qu'il a dit? Tricheur! Bon, c'était presque 100% du temps. Tricheur! Vous avez triché! Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vraiment être les gagnants, c'est la jalousie. Mais c'est là chez nous aussi. Hein. Quelqu'un qui gagne un salaire qui est plus important que nous, bon, il a triché. Il a fait ce qu'il ne doit pas faire. La deuxième chose, je condamne injustement des personnes en raison de leur réussite, de leur popularité ou de leur prospérité. Si je suppose immédiatement que quelqu'un est arrogant ou matérialiste ou superficiel parce qu'il est en gros une personne qui a réussi ou qui est populaire, j'ai un problème avec l'envie parce que je juge. Pourquoi? Parce que je veux ce qu'il a. C'est tout. Je ne connais pas. Troisième chose, je n'arrive pas à partager la joie de quelqu'un qui se réjouit d'une réussite. Si le succès de quelqu'un me rend triste ou irrité, j'ai un problème avec la jalousie. Si je ne peux pas participer à la joie de quelqu'un en raison d'une réussite, je suis jaloux. C'est clair. Et les enfants, c'est très difficile, je sais, mais pensez à vous-même. Qu'est-ce que vous faites quand un autre enfant reçoit un cadeau, mais vous ne recevez pas? C'est pas juste. C'est vrai, n'est-ce pas? Si un autre enfant reçoit un bonbon, mais vous ne recevez pas, quelle est la tentation? Maintenant, je suis fâché. Je suis fâché. Je ne peux pas être content pour vous. Ça, c'est la jalousie. Et si la jalousie est présente, ce n'est pas l'amour. Une quatrième chose, je pense très souvent que je n'ai pas eu le même niveau de réussite qu'un autre à cause de l'injustice. Je suis maltraité, ça c'est le problème. Si je n'étais pas maltraité, j'aurais la même chose qu'il a. Si ça c'est ma première réponse à la réussite de quelqu'un, j'ai un problème avec la jalousie. Je suis jaloux. Je me sens blessé par la réussite ou les applaudissements reçus par un autre. Si ça c'est vrai, si je suis blessé parce qu'il est béni, j'ai un vrai problème avec la jalousie. La sixième chose, je ne peux pas reconnaître la grâce de Dieu dans la vie d'une personne qui réussit ou qui reçoit les félicitations. D'accord? Si je refuse de reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a réussi, il est fort probable que je garde l'envie dans mon cœur. Est-ce que nous connaissons nous-mêmes ces sentiments? On ne peut pas voir la grâce de Dieu dans une personne parce que vraiment on est irrité. Bon, c'est la jalousie, ce n'est pas l'amour de Dieu. Avons-nous l'envie dans nos cœurs? La santé de notre amour se mesure exactement avec la présence d'envie dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas aimer les autres en gardant la jalousie. La présence incontestée de l'envie révèle un amour qui n'est pas sain. Quatrième chose, je me vante de mes succès, soit directement, soit indirectement. D'accord? Paul dit que l'amour ne se vante pas, au verset 4, et ce mot grec signifie quelqu'un qui se donne un coup de chapeau. Hein? Un homme à interpréter ce mot à signifier l'amour ne fait pas un défilé. Personne n'apprécie un fanfaron, mais combien de fois sommes-nous des vantards? Souvent, nous observons la vantardise chez les enfants quand ils racontent leur succès à l'école. Bon, je connaissais toutes les réponses. C'était facile. Sur le terrain de foot, bon, je suis le plus rapide. Dans le domaine de la musique, je joue mieux que les autres. Chez les adultes, nous le faisons bien sûr avec beaucoup de discrétion, mais nous trouvons souvent des façons pour lesquelles nous pouvons mettre la lumière sur notre succès, le niveau de notre sacrifice ou service, l'humilité que nous démontrons quand nous sommes blessés, ou même notre croissance spirituelle. Nos cœurs sont tellement trompeurs que nous devons faire attention au piège de la vantardise. Il est possible de se vanter en donnant une requête de prière, en partageant le travail de Dieu dans nos cœurs, en parlant de notre lecture quotidienne et même en confessant un péché. Nous pouvons le faire même en utilisant un don spirituel dans la vie d'une église locale. Donc, comment déceler si la vantardise est présente dans nos cœurs? D'abord, il faut considérer la gloire. La gloire. Qui sera glorifié par ma parole ou mon service? Cherchons-nous l'approbation des autres? Agissons-nous comme des pharisiens qui tiraient la gloire les uns des autres? Si oui, nous avons de la vantardise dans nos cœurs. Il faut considérer aussi le bien, la gloire et le bien. Mes mots et mes actions sont-ils nécessaires pour l'édification des autres? Ça, c'est quelque chose. Par ce que je dis, par ce que je fais, est-ce que les autres seront-ils édifiés? Si nous cherchons notre propre gloire par ce que nous disons ou faisons, l'amour n'est pas présent parce que l'amour se focalise sur les autres. Cinquième chose, est-ce que j'ai une surestimation de ma propre importance? Et tout le monde répond, bien sûr pas, d'accord? Mais est-ce que ça c'est vrai? L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Le verbe traduit « s'enfler » dans ce verset apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament, et 6 de ces 7 occurrences du verbe se trouvent en 1 Corinthiens. Parce qu'ils avaient un vrai problème. L'idée est donc très importante. Et selon un commentateur, l'idée principale derrière ce mot, c'est l'obsession avec l'attention accordée à soi-même. Je veux être au centre. Je veux être au centre. Comment savoir si on est tombé dans ce piège? Un survol des occurrences du verbe s'enfler dans la lettre révèle ses attitudes et ses actions. Quelqu'un qui s'enfle divise le corps de Christ. Son orgueil ne peut pas accepter ceux qui ont des opinions différentes. C'est pas possible. Il ne peut pas reconnaître les dons qui existent dans les autres. Il s'aligne avec un groupe qui est d'accord avec lui contre un autre qui tient une position différente. Quelqu'un qui s'enfle résiste à l'autorité. Une personne avec une surestimation de son importance ne peut pas se soumettre à l'autorité. Il n'écoute pas, il résiste, il se rebelle parce que ses idées sont les plus importantes. Quelqu'un qui s'enfle se félicite de montrer la tolérance vers les péchés, au moins les péchés qu'il juge d'être dignes de sa tolérance. Dans cette lettre, nous voyons que certains chrétiens ont accepté l'immoralité sexuelle que même les non-croyants rejetaient. L'orgueil nous convainc que nous avons la capacité de juger quels péchés sont vraiment graves. Notre estimation devient donc la norme. En repassant la parole de Dieu, on démontre un orgueil énorme. Quelqu'un qui s'enfle ne s'inquiète pas des dégâts causés par ses choix. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est son désir de plaire. Si quelqu'un se perd à cause de ses choix, tant pis. Il pense, pourquoi je dois me limiter en raison de sa faiblesse? Pour une telle personne, il a le droit de plaire malgré les dégâts chez les autres parce qu'il est au centre de l'univers. Un pasteur a observé l'amour n'a rien à voir avec l'autosatisfaction présomptueuse, avec l'orgueil qui méprise les autres, ou avec la vanité enflée. Quel est l'état de notre amour? Pour répondre à cette question, nous devons faire face honnêtement à l'orgueil qui est dans nos cœurs. Et ensuite, on a cette question. je fais ce qui ne convient pas aux circonstances. Le verset 5 commence par la prochaine description de l'amour. Selon la nouvelle édition Genève, l'amour ne fait rien de malhonnête. Mais quand on consulte les autres versions, on trouve une signification différente. Par exemple, les versions Darby et Sommer disent que l'amour n'agit pas avec inconvenance. Selon la version française courante, l'amour ne fait rien de honteux. L'analyse du mot dans le Nouveau Testament révèle que le mot signifie l'inconvenance impolie. Le mot fait référence au nom Dieu société. Donc, en 1 Corinthiens 7, 36, le vers parle du comportement déshonorant d'un père vers sa jeune fille qui veut être mariée. Il y avait évidemment un type de comportement accepté dans la communauté qui exigeait un certain comportement envers la fille. En 1 Corinthiens 12, 23, Paul appelle les parties privées du corps les aspects moins honorables qu'on ne peut pas exposer en raison de la politesse. Ces deux passages nous indiquent que l'idée derrière le mot, c'est ce qui est inconvenant. Une personne peut agir d'une manière inconvenante de plusieurs façons, ça c'est vrai. J'ai pensé à ces façons. Par les mots, d'accord? Une personne peut parler d'une manière inconvenante. Quelqu'un peut parler trop fortement dans une situation qui exige le silence respectueux. Ce n'est pas de l'amour, donc, si quelqu'un agit brillamment comme s'il assistait à un match de foot quand il se trouve, en fait, à des obsèques. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? On le sait tout. Mais, parfois, ça arrive. Quelqu'un peut briser les convenances en disant ce qu'il pense sans aucun désir de suivre les normes de politesse. Par exemple, un jeune homme pourrait avoir raison, mais il gâche tout s'il ne suit pas les normes de politesse quand il s'adresse à son patron. Il faut suivre les normes de la société pour être respectueux. On peut être inconvenant par des vêtements. Il est possible aussi de démontrer un manque d'amour par nos vêtements. Il y a souvent des normes dans une communauté qui déterminent quels vêtements convient à quels événements. Par exemple, nous avons vu jeudi soir, porte ouverte au collège, que le collège interdit que les élèves portent des shorts. C'est interdit. J'ai jamais vu un conseiller en banque portant son maillot de bain. Quelqu'un qui refuse de suivre les normes de la communauté en supposant qu'elles ne sont pas contre la Bible démontre qu'il n'agit pas dans l'amour. C'est la même chose avec nous, chaque jour, jour après jour. Si on agit d'une manière qui est inconvenante, on n'a pas l'amour. On peut faire avec les attitudes. On peut avoir un zèle pour une certaine chose qui nous amène à violer la politesse. En voulant accomplir quelque chose, même quelque chose de bien, nous pouvons agir d'une manière irrespectueuse et même offensive. Je vais vous lire, c'est une citation très, très à propos. La courtoisie n'est que l'amour dans les petites choses. Les enfants, si vous avez mal à comprendre pourquoi il faut être poli à la table, dans la voiture, à l'école. C'est parce que la courtoisie n'est que l'amour dans les petites choses. Pourquoi devrions-nous si souvent faire mal le bien? Pourquoi devrions-nous pratiquer une vertu au détriment d'une autre vertu? Pourquoi notre honnêteté devrait-elle faire fi de notre charité? Bon, je dis ce qui est vrai. Oui, mais il faut avoir un peu d'amour, n'est-ce pas? Pourquoi notre franchise dépasse-t-elle notre sympathie? Pourquoi notre zèle devrait-il menacer notre patience? Dans tous ces événements, il arrive dans nos vies les choses inconvenantes. Sommes-nous remplis de l'amour? Jugeons nos vies selon notre comportement. ceux qui insistent sur leur propre façon à faire sans égard pour la communauté ne démontrent pas l'amour chrétien. Voilà. On va s'arrêter là, parce qu'il reste beaucoup de choses. Selon la Bible, l'amour patiente. L'amour pratique la bonté. L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas. Et l'amour n'agit pas avec inconvenance. Qu'est-ce que ce questionnaire a révélé sur notre amour? La lumière de la Bible a-t-elle révélé des problèmes? J'imagine que la réponse à cette question est oui. On a des problèmes avec l'amour. J'en ai. Comment améliorer notre amour? Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, une chrétienne, le seul moyen par lequel vous pouvez augmenter votre amour, c'est par la méditation sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'amour incarné. Il a vie tout le temps dans l'amour. Et on peut gagner nous-mêmes l'amour à travers notre lien avec lui. Pour avancer dans la sanctification, nous devons pratiquer la repentance et la foi. C'est tout. Mais si vous êtes non-chrétien ici, et vous posez la question, moi, je suis pas comme ça, mais je veux être comme ça. Je vous connais que ça, c'est un problème chez moi. J'ai pas l'amour comme ça. Vous ne pouvez pas avoir un tel amour sans avoir un lien avec Dieu grâce à Jésus-Christ par la foi. Vous êtes appelés à la repentance et la foi. Et c'est tout. Repentez, c'est de tourner de votre rébellion envers Jésus-Christ dans l'amour et la foi et accepter Jésus comme il est.